Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat. Et vous pouvez nous retrouver ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 29 janvier 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, son délégué général. Mon collègue Étienne Gonu, en charge des affaires publiques à l'April, est également présent. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y retrouver déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous mettrons à jour cette page, évidemment, après l'émission si nécessaire. N'hésitez pas à nous faire des retours pour vous nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une intervention de Vincent Calame, informaticien et bénévole à l'April, qui va nous proposer une nouvelle chronique intitulée « Jouons collectif ». Bonjour Vincent.
Bonjour Fred.
D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur le désormais célèbre projet de directive droit d'auteur, un échange qui sera animé principalement par mon collègue Étienne Gonu. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Fred.
Et au téléphone tout à l'heure nous rejoindra Anne-Catherine Laurin, qui est conseillère politique à la Commission parlementaire Affaires juridiques au Parlement européen pour le groupe des Verts européens. En fin d'émission, nous aborderons notre dernier sujet qui concernera les activités d'un de nos groupes de travail, Trad GNU, qui a pour objectif de présenter l'informatique libre et la philosophie de GNU en français. Nous expliquerons évidemment ce qu'est GNU à ce moment-là. Et j'aurai l'occasion d'échanger avec Patrick Creusot qui participe bénévolement à ce groupe. Alors tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par une intervention donc, de Vincent Calame, qui est informaticien et bénévole à l'April, et qui fait beaucoup de choses pour le logiciel libre, j'y reviendrai à la fin, et qui nous propose une chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors déjà, Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton profil, ton parcours ?
Alors oui, je suis donc informaticien, je conçois et je code des logiciels libres, j'ai ma propre petite société, je travaille depuis plus de 15 ans étroitement avec une fondation, la fondation Charles Le Palmeyer pour le progrès de l'homme, ce qui m'a amené donc à travailler pour eux, mais aussi pour de nombreux collectifs et associations militantes en France et à l'international.
Alors, on va préciser tout de suite que donc, la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme est située dans le 10e arrondissement de Paris et qu'elle accueille très souvent des événements libristes, et notamment grâce à ta présence à toi, Vincent Calame. Donc, il y a des réunions d'April, il y a des soirées de contribution le jeudi soir, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent dans cette fondation qui est donc située dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, dans le 11e, excuse-moi. Alors là, c'était... Tu vois, quand je prépare pas, je confonds le 10e et le 11e. Donc, dans le 11e, vers à côté de Bastille. Donc, ta chronique s'appelle « Jouons collectif » et la description, c'est « Choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein des collectifs, donc associations, mouvements, équipes en tout genre. » Et en gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, est-ce que tu peux déjà nous introduire la chronique et le premier sujet aujourd'hui que tu souhaites aborder ?
Oui, alors informaticien embarqué, parce qu'effectivement, je me retrouve souvent dans le cadre d'événements ou pour des projets plus long terme de sites web ou d'organisation de travail, comment un groupe travaille, notamment quels sont les meilleurs outils particuliers à l'international, quels sont les meilleurs outils de travail à distance pour ces collectifs-là. Et je me retrouve souvent le seul informaticien, et donc informaticien de service qui gère, aussi bien des petits problèmes de branchement d'ordinateur que des problèmes de disque dur, ou mon corps de métier qui est quand même de coder. Mais en fait, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, une fois qu'on a touché un peu à l'informatique, on est censé tout savoir et pouvoir intervenir sur tous les sujets. Et voilà, donc je voulais profiter de cette chronique pour témoigner de comment on passe le logiciel libre à des non-informaticiens, mais dans le sujet du monde associatif. Il y a plein Il y a plein de manières, de lieux où passer le logiciel libre auprès du grand public, mais ça, c'est plutôt des actions de sensibilisation. Et moi, c'est plutôt quand je suis confronté à un groupe, d'essayer de proposer du logiciel libre et de le faire adopter, ce qui n'est pas toujours simple.
Alors justement, c'est un peu le point de départ de la chronique, c'est pas toujours simple. Et pourtant, le logiciel libre devrait aller finalement de soi dans les milieux associatifs et notamment les collectifs militants. Et pourtant, finalement, de ton expérience, ça ne va pas si de soi aussi facilement. Alors, quelles sont les raisons ?
Oui, alors les raisons, bon, il y a une raison pratique au début, qui est le poids de l'habitude, des pratiques. Il y a également, faut dire, quand on est face à Google, il y a la force de frappe des financières et techniques de ces grands groupes qui fait qu'on est un peu... il est difficile de lutter parfois contre des outils qui marchent très bien. C'était à la limite plus facile il y a une dizaine d'années quand on était face à Microsoft et ses problèmes récurrents. Là, quand on est face aux GAFA, c'est plus compliqué de proposer des outils alternatifs quand les gens ont déjà leurs habitudes.
Alors, tu as parlé des GAFA, on peut parler des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En gros, c'est les géants d'Internet dont le modèle économique est basé sur la captation des données des personnes qui utilisent ces services.
Tout à fait.
Je te laisse poursuivre.
Voilà, donc ça, c'est... Donc, il y a beaucoup de raisons pratiques. Je précise qu'il y a aussi... De ma part, de mon expérience, au début, quand on est militant du logiciel libre, on a une petite naïveté quand on aborde ces collectifs, en pensant que ça allait de soi, qu'ils allaient se mettre au logiciel libre, parce qu'on est les gentils, c'est les méchants, et qu'il y a des proximités de valeurs, de partage, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on se rend compte, moi, ce que je me suis rendu compte, et pour moi, une des raisons assez profondes, c'est qu'au fond... pour beaucoup de gens, l'informatique, c'est quand même quelque chose d'hostile. Et c'est un outil pour moi hostile et aliénant, notamment dans un cadre professionnel. Je pense pas au quotidien. Je veux dire, c'est pour un usage privé, ça peut être, c'est très agréable. Mais je pense que pour beaucoup de gens dans le monde professionnel, l'informatique est quelque chose de pénible qui fait perdre de la maîtrise. Je prends un exemple qui est hors du cadre associatif, mais pour les garagistes, maintenant, réparer une voiture, c'est brancher un ordinateur et regarder ce que fait le tableau de bord. Il n'y a plus du tout la noblesse du métier, on va dire, de réparer le moteur, et ce qui sans doute faisait la passion des gens qui aimaient la mécanique.
Et il faut disposer d'une mallette qui est fournie par le constructeur de la voiture, et sinon, effectivement... la plupart des interventions ne peuvent pas être faites aujourd'hui sur les voitures.
Oui, voilà. Et je pense qu'il y a énormément de métiers qui ont perdu cette maîtrise de leur outil. Et nous, en informaticien, on reste beaucoup devant notre écran, mais au fond, quand on regarde dans un milieu professionnel, tout le monde reste devant son écran face à des logiciels qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas, qui leur impose des choses et qui sont... qui peuvent même les freiner, qui sont censés les aider, mais qui peuvent les freiner ou les contrôler. Donc, pour moi, donc, l'informatique a mauvaise presse auprès des gens, et c'est pour ça que c'est considéré comme quelque chose à part.
Alors, tu as parlé d'aspect pratique, habitude, du côté aliénant de l'informatique, et l'informatique libre, le logiciel libre, vise justement à libérer les personnes. Donc, quelles sont les conséquences du constat que tu fais par rapport à tes pratiques de sensibilisation de ces collectifs pour le logiciel libre et d'installation de logiciels libres ?
Oui, alors moi, il y a presque pour moi un paradoxe, c'est qu'effectivement, le logiciel libre, c'est un message d'émancipation, puisqu'il s'agit de retrouver justement le contrôle de sa machine, le contrôle de ses logiciels, savoir ce qui fonctionne réellement. Simplement, c'est aussi un message très exigeant, puisqu'il s'agit d'aller, dans l'absolu, il s'agit d'aller regarder le code et regarder comment c'est possible. Ce que, évidemment, on ne fait pas quand ce n'est pas son métier, surtout dans un cadre professionnel. Un amateur peut le faire sur son propre ordinateur, mais quand on est face à un logiciel comptable ou n'importe quoi, un comptable n'a pas cette capacité, n'a pas cette connaissance, n'aura pas la formation. On ne lui donnera jamais la formation, d'ailleurs, pour le faire. Et donc, au fond, je dirais presque que le message du logiciel libre est presque culpabilisant, dans le sens où j'ai eu l'expérience avec quelqu'un qui m'avait dit, mais au fond, quand j'ai un problème avec, c'était il y a une dizaine d'années, avec Microsoft et que j'ai un écran bleu, mais au fond, bah, je me dis, c'est la multinationale, méchant Microsoft, et ouf, ça permet finalement de se défouler. Alors que quand le problème venait d'un logiciel libre, ça renvoyait aussi à la propre incapacité de la personne de contrôler son environnement. Et j'avais presque une... l'hostilité vis-à-vis de l'informatique était encore accrue vis-à-vis du logiciel libre qui avait presque une image encore plus technique et informatique que le reste. Et au fond, j'avais l'impression qu'on avait plus d'efforts à faire pour montrer que non, ce sont pas des... l'ordinateur ne vous fait pas du mal quand il se plante. C'est bon, il y a un apprivoisement, il y a un apprentissage et c'est possible. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai qu'au fond on était encore plus identifié comme une race à part, on va dire.
D'accord. Mais en tout cas, c'est surtout une image, parce que finalement, si on réfléchit bien et quand on explique aux gens, le logiciel libre vise aussi à expliquer plus concrètement comment fonctionne l'informatique et que les bugs, ça existe, que ce n'est pas forcément la faute de la personne qui utilise l'ordinateur, que ça peut être corrigé et que quelque part, justement, ça change ce modèle de relation entre la personne qui utilise un ordinateur et les logiciels, qu'il n'y avait pas dans le logiciel privateur comme Microsoft. Alors, c'est vrai que ça me fait penser, quand tu parles, oui, c'est Microsoft, ça fait penser aussi à l'époque, quand dans les grandes entreprises, il y avait des problèmes avec IBM, on disait, de toute façon, c'est les hommes en bleu, parce qu'à l'époque, ils étaient souvent habillés avec des costards, les personnes, et c'est pas de notre faute, etc. Pourtant, le logiciel libre essaie de renverser un petit peu cette tendance. Mais toi, tu constates que dans les collectifs, en fait, ça demande quand même beaucoup de travail d'explication. Et donc, quelles seraient les perspectives ou les pistes pour l'avenir ?
Alors, la situation a quand même bien évolué depuis que je suis dans ce milieu. On sent une sensibilisation accrue. Je pense que les gens ont conscience que l'informatique n'est pas un monde à part, de moins en moins. Notamment avec toute la question des communs numériques, c'est plus réservé à quelque chose vraiment. C'est pas isolé par rapport au reste. Et je pense que les collectifs sentent mieux cette importance, le fait que c'est un fait de société essentiel. Et je le sens aussi qu'il y a une demande qui commence à s'exprimer. Dans ce cas-là, il faut, de manière presque spontanée, des gens autour de ces questions-là. C'est de plus en plus intégré dans la démarche des gens et des collectifs. Donc, je suis très optimiste là-dessus. Simplement, effectivement, je pense que faut prendre son bâton de pèlerin et c'est un travail de long terme qui porte ses fruits, mais qui ne se fait pas dans un claquement de doigts, parce que le problème de l'informatique, c'est très facile de mettre en place des choses, d'installer quelque chose. Le plus dur, c'est de maintenir. Et c'est souvent d'ailleurs dans ce défaut de maintenance que se pose le problème. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Moi, ce que je vois, c'est que les gens comprennent bien. J'ai l'avantage, donc je programme des logiciels qui sont utilisés et je suis en contact direct avec l'utilisateur. Donc ça, ils apprécient le fait, effectivement, de pouvoir me remonter immédiatement les problèmes et les voir corrigés. Quand le logiciel libre est c'est le système d'exploitation et qu'effectivement, il n'y a pas... On ne sait pas trop à qui s'adresser. Là, c'est plus compliqué. Mais...
D'accord. D'où l'importance aussi de l'accompagnement physique que tu fais auprès des collectifs. Ce sera un peu la thématique récurrente de ta chronique, où là, on a parlé, on a échangé en termes généraux, mais dans les prochaines chroniques, tu prendras des points particuliers, des exemples. Tu parleras aussi des fonctions cachées de certains logiciels, des fonctions magnifiques qu'on découvre totalement par hasard, ou au contraire, des rajouts de fonctionnalités qui perturbent la personne qui utilise l'ordinateur, parce qu'elle était habituée à autre chose. C'est tous ces sujets-là que tu aborderas de par ton expérience d'accompagnement de collectif. Je crois qu'Étienne veut poser une question ou rajouter quelque chose.
C'est un... Je trouve très intéressant en fait ce que tu dis, la manière dont tu l'abordes, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que moi j'ai l'impression, parce que justement je suis pas informaticien, et pourtant bah, au sein de l'April, je défends le logiciel libre, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que je ressens et dans la manière dont j'ai l'impression de le défendre, et dans ce pourquoi je me bats. C'est-à-dire que de réfléchir que le logiciel libre, c'est une manière en fait de réfléchir politiquement la place de l'informatique. Et de savoir voilà, que le logiciel libre soit libre ou non, quand il est imposé aux gens, quand il conditionne les usages, quand il est imposé et que les gens doivent adapter leur manière de collaborer, de travailler au logiciel qu'on leur impose, forcément c'est aliénant. Et toute la réflexion, c'est de repartir des besoins effectifs. Et voilà, c'est comme ça que ça va se construire, avec toujours aussi ces notions de confiance. Et voilà, moi, en tant que non-informaticien, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis parce que il y a des gens en qui je fais confiance, qui m'ont recommandé un outil, par exemple, et je sais qu'il y a une sorte de manière vertueuse de produire, enfin de créer de l'informatique, et c'est pour ça que je peux avoir confiance. Donc, mais je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu renverses justement tout ça, toute cette réflexion. Ouais.
Oui, je pense que l'informatique est un objet technique, mais ne doit pas être seulement ça. C'est toute la question de la maîtrise sociale, de la technique et des sciences. Hein. C'est de montrer que ce n'est pas qu'un sujet d'expert, et c'est un sujet qui nous concerne tous au quotidien.
Eh bien, écoute, on te remercie Vincent pour cette donc, première édition de la chronique Jouons Collectif. On va sans doute se retrouver le mois prochain. Nous allons passer une pause musicale avant de passer au sujet suivant. Donc la pause musicale, c'est Side Effect par Fog Leck. Et on se retrouve juste après. Side Effect par Fog Leck. Donc l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos musiques sont diffusées sous des licences libres. Hein. Nous faisons un choix volontaire qui permet de les partager librement avec vos amis, votre famille, de les télécharger, de les mixer. Et donc Side Effect est sous licence Creative Commons by, c'est-à-dire attribution. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez l'émission donc pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. J'entends qu'au téléphone, notre invitée Anne-Catherine Laurin nous a rejoint. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour tout le monde.
Alors nous allons passer à notre sujet principal l'échange va principalement être animé par mon collègue Étienne Gonu. Donc c'est le projet de directive droit d'auteur. Donc nous avons avec nous en studio donc Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour.
Au téléphone, donc, nous avons Anne-Catherine Laurin, conseillère politique pour le groupe des Verts européens. Donc, tiens, je te passe la parole pour ce sujet, donc le projet de directive droit d'auteur.
Merci, Fred. Si vous êtes amateur régulier et auditeur, auditrice régulier de Libre à vous, vous saurez que nous avons déjà plusieurs fois abordé cette question. Je vous propose déjà peut-être un petit récapitulatif des épisodes précédents, on va dire, de la directive. Alors déjà, notre émission du 5 juin, alors tous les liens seront sur la page dédiée, hein, sur le site, donc on pourra vous ramener aux transcriptions notamment et aux détails de ces émissions. Donc effectivement, le 5 juin 2018, Anne-Catherine avait déjà participé à cette émission, aux côtés de Marc Reyes, qui est journaliste et rédacteur en chef du journal d'investigation en ligne Next Impact. Et avec lui, nous étions revenus sur la genèse de cette directive et surtout de son article 13, dont l'objet serait de rendre responsables les plateformes de partage de contenu des contenus qu'elles hébergent. Et elles devraient donc s'assurer qu'aucun contenu non autorisé par les ayants droit ne soit mis en ligne. Donc, en gros, ça remet en cause un principe structurant d'Internet qui est un intermédiaire technique n'a pas à surveiller les contenus que ses utilisateurs et utilisatrices mettent en ligne. Dit à l'inverse, seul un éditeur, donc qui par essence a vocation à connaître les contenus publiés, est directement responsable de ces contenus. Alors clairement, la cible du texte, c'est YouTube, c'est Facebook, mais même si on peut débattre de leur modèle, de leur manière de fonctionner, la loi s'applique à tous, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, et c'est un peu finalement l'objet qui anime notre combat contre ce texte très dangereux. Alors, le 3 juillet, dans notre émission du 3 juillet, aux côtés de Pierre Bessac, hein, qui est un militant de longue date de liberté informatique et qui est notamment cofondateur de Gandhi, un des principaux hébergeurs de noms de domaine français, on parle de registrars, avec lui, nous avions justement discuté plus en détail des dangers des systèmes de filtrage automatisés que pousserait et forcerait finalement à adopter l'article 13, enfin les plateformes à adopter en vertu de l'article 13. Et de leur impact sur les libertés informatiques, de leur impact sur la manière dont fonctionnent les plateformes de partage. Et nous avions notamment parlé plus spécifiquement de l'impact que ces systèmes pourraient avoir sur les plateformes de développement et de partage de logiciels libres et pourquoi nous nous battions pour qu'une exception soit prévue et intégrée au texte. On reviendra d'ailleurs un peu plus en détail plus tard sur ce point. Sachez que voilà, normalement l'exception est plus ou moins acquise, donc au moins déjà une petite victoire sur ce sujet. Enfin, le 2 octobre, alors là c'était plus court, mais j'avais partagé avec vous une triste nouvelle, on va dire, celle que du vote du 12 septembre par le Parlement européen, vote par lequel ce Parlement donnait mandat au rapporteur Axel Voss pour porter le projet de directive, donc dans une version particulièrement inquiétante en ce qui concerne l'article 13, donc pour porter un projet de directive au niveau de ce qu'on appelle les trilogues. Pour rappel, le trilogue, en gros, c'est une négociation entre les représentants des trois principales institutions européennes, donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est la représentation directe des États membres, des gouvernements, si vous voulez. Et derrière des portes closes, ils discutent ensemble pour obtenir un texte, qu'on va dire un texte de compromis, qui au final sera voté par les parlementaires européens. Donc nous, quand on avait préparé cette émission, le but, c'était il devait y avoir une dernière discussion le 21 janvier. Et nous, on préparait cette émission avec le but, finalement, de détailler ce qui allait ressortir de cette dernière négociation. Mais, surprise, le 18 janvier, il s'est passé quelque chose qui a tout remis en cause. Un mandat a été rejeté. Et là, j'ai envie de passer peut-être la parole à Anne-Catherine, puisque tu es directement, on va dire, dans les coulisses des institutions européennes. Enfin, tu as un regard privilégié peut-être sur ces questions. Peut-être que tu peux nous dire plus un peu sur ce qui s'est passé ce 18 janvier et tout le contexte qu'il y a autour.
Oui, effectivement. Alors, le 18 janvier, ce qui s'est passé, c'est que la présidence roumaine qui venait juste de prendre son mandat à la tête du Conseil, à la présidence du Conseil, à partir du 1er janvier, n'a pas réussi à dégager une majorité sur l'article 13, exactement sur l'article 13. En fait, une minorité de blocage, parce que toutes les décisions sont prises à une majorité simple, il suffit qu'il y ait une minorité de blocage pour qu'il n'y ait aucun mandat, aucun accord au sein du Conseil. La Roumanie n'a pas réussi à convaincre notamment l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Suède, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Slovénie, la Pologne, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, j'en ai déjà parlé. Donc tous ces pays, en fait, étaient contre ce que la présidence roumaine a mis sur la table. En gros, ce que la présidence roumaine a mis sur la table, c'était les textes qui étaient déjà là en décembre à l'issue du cinquième trilogue qui a eu lieu le 14 décembre à Strasbourg.
D'accord, donc si je comprends bien, la Roumanie devait, comme ce que je disais par rapport à Axel Voss, devait obtenir suffisamment de soutien pour son texte. Et tous les pays que tu nous as cités n'ont pas donné ce soutien et ça faisait une masse suffisante pour pas que le texte soit adopté.
C'est ça. Ça a continué une minorité de blocage pour qu'il n'y ait pas de texte à mettre sur la table par la présidence du Conseil.
D'accord. Donc ils préparent.
Et la France était du côté de la Roumanie, c'est-à-dire ils voulaient continuer les négociations sur le texte existant. Mais on est assez content en fait que l'Allemagne ait permis ce blocage, puisque vous le savez, en Allemagne, l'exception pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises et les PME, exception à l'application de l'article 13, est quelque chose de très important pour le gouvernement allemand. Ça a été à l'issue de discussions, de tractations impliquant les partis majoritaires du gouvernement, dont la CDU, qui ont vraiment insisté pour avoir cette exception. Donc, la France, eux, ne partageait pas ce souci, ce qui a fait que, eh bien, il n'y a pas pu y avoir d'accord. Donc, évidemment, on présente les choses comme une opposition France-Allemagne, ce qui est très simpliste, parce que c'est pas ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres pays qui partagent les vues de l'Allemagne. Mais c'est un peu comme ça qu'ont été présentées les choses de manière un petit peu facile, notamment au sein de la commission jury la semaine dernière. Mais voilà, donc on en est là pour l'instant, et le trilogue qui devait avoir lieu, le sixième trilogue qui devait avoir lieu le 21 janvier a été annulé plus ou moins à la dernière minute, et nous n'avons pas de date de remplacement. Donc on ne sait pas, on entend parler d'une prochaine réunion dite COREPER, c'est-à-dire des représentants des gouvernements précisément sur ces questions de propriété intellectuelle et de copyright, peut-être le 6 février.
D'accord.
Et si ça a lieu le 6 février, on aurait un trilogue très rapidement après, avant la prochaine session plénière du Parlement qui a lieu la semaine du 11 février. Tout au conditionnel, on n'a absolument aucune confirmation, ce qui rend tout à fait possible une non-adoption de la directive avant les élections du Parlement.
Ouais, c'est tout l'enjeu. Mais je pense qu'on reviendra plus tard sur comment se mobiliser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, forcément, ça s'adaptera au contexte. Et ce que je trouve peut-être intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'était présenté. Alors, on peut imaginer que c'est important, l'opposition France-Allemagne. Mais ce qu'on avait comme aussi l'impression, c'est qu'avant quand même ce vote du 18 janvier, tout n'allait pas forcément bien. Au contraire, on voyait déjà que peut-être que la directive, notamment autour de l'article 13, ça commençait à prendre l'eau. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà justement des tensions qui existaient, des difficultés à aboutir à un texte? De mémoire, justement, là on parle de trilogue, donc ces négociations, il y en avait déjà eu 5. Il y a eu plusieurs, il y a des dates qui ont été rajoutées parce qu'il me semble qu'ils n'arrivaient pas justement à aboutir à des négociations. Je crois qu'il y a eu finalement alors je crois que c'est le cinéma hollywoodien qui est revenu en arrière en disant finalement ce texte est dangereux, on n'en veut pas non plus. Peux-tu peut-être nous donner ton sentiment par rapport à tout ce qu'on a pu percevoir de l'extérieur comme vraiment une situation de tension et de difficulté à aboutir aboutir à une négociation?
Effectivement, de toute façon, ce texte donne lieu à des tensions parmi tous les acteurs concernés, les acteurs du secteur culturel, d'Internet, et évidemment au niveau gouvernemental, c'est très tendu depuis le départ. Pour la Commission, ils marchent aussi sur des œufs. Leur service juridique a été réticent envers certaines choses. On a entendu dire qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'a proposé la Commission sur l'article 11, par exemple. Donc, c'est très, très délicat depuis le départ. La campagne
sur l'article 11... Pour les personnes, je crois que nous, on s'est focalisé sur l'article 13. On va plutôt essayer de se focaliser sur l'article 13. Et l'article 11, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, concerne les publications de presse. Notamment, ça visait Google News, de l'autre pan de monétisation de Google. Et finalement, donner des droits particuliers au fait de référencer des liens en ligne.
Oui, ce qu'on appelle la link tax aussi. Oui. D'accord, je ne vais pas m'étendre sur l'article 11, mais c'est difficile de... exactement séparé parce que toute la dynamique et tout est assez imbriqué. Mais c'est juste pour dire que la Commission marche sur des œufs depuis le départ aussi. La lettre dont tu parlais tout à l'heure, c'est cette lettre qui a été envoyée en décembre par Motion Pictures of America et aussi d'autres lobbies du secteur audiovisuel qui se disent que, ils se rendent compte que à force d'ajouter plein de conditions sur les filtres, d'ajouter plein de considérants, il y a des articles dans la directive, mais il y a aussi ce qu'on appelle des considérants, c'est-à-dire des paragraphes avant les articles qui permettent d'éclairer le juge et le législateur national quand il s'agira de transposer la directive en droit national, d'éclairer sur l'application des articles. Donc c'est très important parce que ça donne beaucoup de contexte, de justification. Et rien qu'autour de l'article 13, il y a 10 considérants. C'est énorme, énorme, pour justement essayer de justifier ce contournement de la directive e-commerce de 2000, qui était vraiment la pierre angulaire de cadre juridique d'Internet en Europe depuis 2000, que contourne ce nouvel article 13, puisque cet article 13 crée des règles spécifiques ad hoc pour les contenus de droit d'auteur, en disant que l'exception pour non-responsabilité dont peuvent bénéficier les plateformes ne s'appliquerait pas concernant ce genre de contenu.
Exactement.
Donc il y a 10 considérants pour expliquer comment finalement c'est possible, etc. Donc ça prouve bien aussi la délicatesse du sujet et la difficulté du législateur de justifier l'article 13.
Oui, on voit, mais c'est ce qu'on défend aussi. Alors, ce qu'on défend, c'est que finalement, effectivement, le texte, dès le départ, est très mal rédigé. Alors, le nombre de considérants étant un fort indice, le nombre d'exceptions étant un autre fort indice. Une bonne loi n'a pas besoin d'autant d'exceptions. Je vais juste préciser peut-être que la directive e-commerce que tu mentionnais, précise justement ce dont je parlais au début sur l'équilibre des responsabilités, le fait que si on ne connaît pas les contenus, on n'a pas à aller les vérifier justement pour ne pas en être responsable. Et ça gère tout toutes ces difficultés.
Il y a un principe de non-responsabilité, en fait. Oui. La directive du commerce, c'est un principe léger, de non-responsabilité avec exception, responsabilité dans tel et tel et tel cas. Ici, c'est un principe de responsabilité avec, par exception, des fois non-responsabilité. Donc là, on inverse complètement le système pour un type particulier de contenu. Donc juridiquement, c'est très problématique. Je suis juriste de formation et ça pose problème aussi à beaucoup de gens.
Alors, tu mentionnais, et je pense que c'est un point important, l'exception, et c'était vraiment, on sentait le point névralgique, et alors c'est intéressant que ça tourne autour des petites et moyennes entreprises, mais tu étais une exception, effectivement, parmi beaucoup d'autres. Alors, c'est là-dessus que ça a basculé. Alors, on voit que ce n'est pas l'argument des libertés, forcément, qui a prédominé, mais bon, à partir du moment où la directive s'écroule, surtout son article 13, on est preneur. Alors, j'aimerais peut-être demander, du point de vue d'une des types de plateforme qui a obtenu une exception, et c'est Wikipédia. Alors on imagine bien l'importance qu'il est de ne pas préserver Wikipédia des tentacules de ce texte. Peut-être peux-tu, Pierre-Yves, nous donner ton regard en tant que président de Wikipédia France sur ce texte et sur l'exception qui a été accordée ou non peut-être à Wikipédia.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau de la communication, la publicité, on prétend que la directive européenne est une loi anti-GAFA, donc anti-plateforme privative des géants du web, mais c'est qu'en fait, au tout départ, le texte de la Commission visait tout l'Internet, quasiment tout l'Internet, et il a fallu se mobiliser pour obtenir des exemptions, petit à petit. La première, à ma connaissance, c'était Wikipédia. Sachant que ça pose des problèmes. Dans le mouvement Wikimedia, il n'y a pas que l'encyclopédie. Donc, après coup, finalement, elle a été élargie pour prendre en compte un peu tous nos projets à but non lucratif, non commercial, qui visent le savoir, la connaissance et l'éducation au sens large. Mais ça pose un problème de fond. En 2001, quand est créé Wikipédia, peut-être qu'on ne l'aurait pas obtenu étant petit, voire même avant sa création. On ne peut pas exempter quelque chose qui n'existe pas encore. Donc la directive, il faut bien voir qu'elle va s'appliquer pendant 10-20 ans dans toute l'Union européenne. Et donc c'est un peu dommage d'exclure que des services qui existent déjà sur le web ou qui sont suffisamment forts pour pouvoir faire du plaidoyer à Bruxelles et comprendre un peu toutes les arcanes, et qui sont bien vus aussi par les parlementaires et par les membres de la Commission pour avoir une exemption. Il y a aussi toute cette mobilisation, en fait. C'est aussi grâce à la mobilisation des internautes que certains secteurs, comme le logiciel libre ou Wikimedia, ont obtenu des exemptions. Donc les députés, après coup, se plaignent un peu de recevoir massivement des coups de fil et des mails, mais malheureusement, ils l'ont un peu cherché. En ne définissant pas au tout début ce qu'ils entendaient par données et par plateforme, par site web. Et donc, il a fallu batailler pour restreindre un peu à ça. Et il ne faut pas tomber dans le piège, même encore maintenant, avec toutes les exemptions. Cette directive n'est pas juste une loi anti-CAFA. Elle vise bien plus large.
Bien sûr, la loi s'applique finalement aussi à tous. Hein. On ne fait pas des lois à nos miennes. Fred,
petite précision par rapport au timing. La précédente directive droit d'auteur date de 2001. Donc, quand tu dis effectivement ça va s'appliquer, cette nouvelle directive, si elle est votée pendant 10 ou 20 ans, on le constate de façon très claire. Et le deuxième point, c'est que quand des citoyens et des citoyennes s'expriment et contactent leurs députés, qu'ils soient députés européens ou députés français, c'est la démocratie. Surtout quand ils s'expriment avec leur propre expérience. Et on en parlera tout à l'heure quand on parlera du projet de loi éducation en France. Voilà, c'était juste une petite incise.
Ensuite, un autre point qui est un peu gênant, c'est de croire que les sites web sont sur des îlots isolés, notamment les sites sous licence libre, comme Wikipédia, en fait, ne peut pas fonctionner tout seul. On réutilise du contenu qui sont publiés en premier sur d'autres plateformes, à but non commercial, voire commercial. Notamment Flickr représente 10% de la médiathèque Wikimedia Commons, parce que notamment des institutions françaises, les ministères préfèrent publier là-dessus, des musées, l'école polytechnique. Et puis, ils publient quand même sous une licence compatible avec Wikipédia, avec Wikimedia Commons. Donc, le contenu, après, est remis sur nos serveurs et permet d'illustrer Wikipédia.
Donc, si un site tiers comme Flickr était finalement censuré, ne pouvait plus fonctionner correctement, Wikipédia perdrait...
On sera indirectement impacté. Et ensuite, la mission de Wikipédia, parce que beaucoup de gens, dans le débat ces dernières semaines, notamment les lobbyistes pro-directive, pro-article 13, s'étonnent que le mouvement Wikimedia reste mobilisé. Il faut bien voir qu'on n'est pas une entreprise commerciale, on ne cherche pas à ce que le public consulte à tout prix Wikipédia. Notamment grâce aux licences libres, le contenu aussi est amené à être diffusé ailleurs, sur d'autres plateformes, par d'autres moyens. C'est le principe de la connaissance. Idéalement, on aimerait que les gens consultent énormément Wikipédia, mais il y a aussi beaucoup de gens qui consultent des sites commerciaux à but tout à fait profitable. Et donc, ça rentre aussi dans notre mission, c'est d'aller jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à l'internaute. Et tout seul, on n'y arrive pas forcément. Et donc là aussi, la directive, en fait, va empêcher, par exemple, à l'heure actuelle, déjà, on avait publié sur notre blog un chercheur qui avait tenté de diffuser sur une plateforme vidéo telle que YouTube des enregistrements de bac. Le filtre les avait refusés. Et à l'avenir, comme le filtrage va s'étendre, on peut prévoir que des textes de Victor Hugo ou les peintures de Léonard de Vinci vont aussi être supprimés de ces plateformes.
Oui, c'était très inquiétant, effectivement, ce que tu dis. Alors, de chaud, moi, ça m'évoque une citation que j'ai trouvée. Alors, je vais prendre le risque de l'attribuer à Marc Ress. Il me semble bien que c'est lui qui avait pris cet exemple-là. D'une vision, finalement, les rédacteurs de ce texte verraient Internet ou voudraient qu'Internet soit comme les rayons de la FNAC dans les années 80, qui oublient de voir, justement, toute cette interdépendance, tous ces systèmes de partage, qu'on ne peut pas juste faire une exception Wikipédia. Ça n'a pas de sens, puisque, finalement, il y a toute cette interconnexion qui existe. Tout ce que tu dis aussi, c'est que du coup, alors il y a peut-être une exception formelle, mais qu'en réalité, Wikipédia ne peut pas être épargnée par ce texte. On imagine bien, ne serait-ce que je pense que dire qu'une directive met en danger Wikipédia, et je pense qu'on voit tous l'intérêt collectif, social que revêt Wikipédia maintenant. Alors, le simple fait de menacer ça devrait d'ailleurs disqualifier, à mon sens, un texte de loi. Bon, là, je parle d'un point de vue libriste, mais Anne-Catherine, peut-être que tu voulais... Oui. Donner ton point de vue.
Je voulais rebondir là-dessus parce que, comme vous l'imaginez, bon, on a eu 5 trilogues déjà et on a eu peut-être 10 ou 12 réunions techniques de trilogues, juste le staff, pas au niveau politique. Et notamment, toute cette discussion, cette négociation pour exclure des plateformes, des sites tels que Wikipédia, ça a été assez long. Et d'ailleurs, techniquement, c'est pas dans l'article 13 même, mais dans l'article 2 qui est sur les définitions.
Tout à fait.
Et il y a un paragraphe sur la définition des plateformes, et l'article 13 s'y réfère indirectement. Et c'est très difficile de faire comprendre ce que veut dire commercial, non commercial, que l'adjectif non commercial n'est peut-être pas très pertinent sur Internet, parce que comment qualifier cela, puisque sur Wikipédia, il y a un appel aux dons, donc c'est pas forcément non commercial. Donc il faut mettre le curseur à d'autres endroits, et ça donne lieu à des discussions très très longues, et il a fallu vraiment bataillé pas mal au niveau technique et politique. Et ce qui s'est passé en cet été, l'été 2018, donc toute cette campagne qui a permis aux députés quand même de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette directive, y compris tous les députés du Parlement qui ne travaillent pas sur le dossier directement. Donc on a réussi, le groupe des Verts et d'autres, mais on y est beaucoup pour quelque chose, à challenger, excusez-moi pour l'anglicisme, mais le mandat du Parlement qui allait tout simplement adopter le texte comme une lettre à la poste suite au vote de la commission jury en juin pour juste commencer le trilogue. Mais on a réussi à mettre les choses en suspens pour permettre aux députés de se rendre compte que ça n'allait pas et de donner l'opportunité de déposer certains amendements. Et en septembre, on a voté sur ces quelques amendements et notamment, il y a eu ces amendements sur l'exception pour les PME. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour le Parlement aussi, parce qu'en septembre, c'est ce que le Parlement a dit. Il dit, attendez, on va changer un peu l'article 13, il y a quand même quelques aspects qu'il faudrait prendre en compte. Et là, on voit qu'au niveau du Conseil, c'est aussi ça qui fait achoper le processus.
Pour ceux qui ne suivent pas forcément le dossier, effectivement, je m'embrouille dans les dates, le 20 juin, il me semble bien, le texte avait été d'abord rejeté, puis, alors, plusieurs modifications, mais une des principales était cette exception pour les petites et moyennes entreprises qui a été rajoutée. Et c'est ça qui aurait fait la bascule et permis au texte d'être adopté finalement en septembre. Et pourtant, c'est remis en cause maintenant. Donc, on voit bien aussi les effets de boule de neige que ça peut provoquer par
oui,
la suite.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'on insiste sur cette exception pour le Parlement, au niveau du contexte politique, c'est important de le garder.
Bah pour ceux qui le défendent, nous, après, on se sert. Alors, on regrette que ce ne soit pas, comme je disais, sur les notions de liberté, sur les valeurs qu'on défend. Mais effectivement, à nouveau, je pense que comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus se voir uniquement l'opposition France-Allemagne, voir uniquement ce point d'achoppage précis. C'est révélateur plutôt, à mon sens, de la pauvreté, on va dire, intrinsèque du texte et même de son incompatibilité avec les valeurs fondamentales, puisqu'il est impossible de tout faire rentrer, de s'assurer à la fois de principe de la liberté d'expression, on ne peut pas garantir la liberté d'expression avec du filtrage automatisé, c'est fondamentalement incompatible.
Par exemple, il y a... Excuse-moi.
Non, je t'écoute.
Ok. Il y a dans l'article 13 un paragraphe qui dit que, le filtrage automatique est interdit. Mais quand vous avez dans les autres paragraphes précédents quelque chose qui dit le contraire, parce que tout ce qui est prescrit dans l'article 13, en fait, sous-entend un filtrage automatique, de fait. Et cette interdiction de filtrage automatique, de toute façon, ne s'appliquerait pas parce qu'elle provient de la directive e-commerce. Et quand on regarde la directive e-commerce, cette interdiction de filtrage automatique dépend du safe harbor, de l'exception pour non-responsabilité, qui est vraiment la pierre angulaire de la directive e-commerce. Mais cette exception ne s'applique pas. Il est dit dans l'article 13 de la directive droit d'auteur que cette exception de la directive e-commerce ne s'applique pas. Donc, de fait, par un jeu de domino juridique, cette interdiction de filtrage ne s'applique pas non plus. Et ça, c'est une interprétation qui a été confirmée par le service juridique du Parlement.
Oui, mais après, c'est vrai que juridiquement...
Il peut y avoir des déclarations de principe, mais juridiquement, mécaniquement, elles ne peuvent pas s'appliquer en réalité.
Oui, puis je trouve que le texte est juridiquement très compliqué, il est difficile à lire, et pourtant, en fait, en sortant juste du point de vue juridique et en rentrant finalement dans le domaine du bon sens, on voit bien que si on demande à des plateformes qui doivent gérer des millions de contenus tous les jours et d'être capables d'en détecter, d'empêcher certains contenus qui n'auraient pas reçu une certaine autorisation d'être mis en ligne, on imagine bien tout de suite que ça nécessite de fait la place de filtre automatisé, et ça se comprend assez simplement, et les risques ensuite sous-jacents se comprend très bien. Alors, il y a des outils qui existent. On avait parlé, comme je vous disais, avec Pierre Bessat, qui est d'ailleurs le billet, il avait écrit un billet qui sera en ligne, est très intéressant. Il explique cela très bien, il est impossible de mettre en place des filtres satisfaisants. Et sur des millions, je trouve que ça illustre très bien à quel point ces filtres sont inadmissibles. Si des millions, si sur des millions de contenus passés tous les jours, il suffit qu'il y ait finalement même 0,01% représenterait quand même des milliers de personnes, et il paraît inacceptable de censurer quotidiennement des milliers de personnes pour un prêt, voilà, sur des bases automatiques. Bon, parlant voilà, de ces milliers de personnes potentiellement censurées par cet outil, moi je pense qu'il est du coup peut-être important de mobiliser sur ces sujets, parce que alors, si le texte paraît compliqué, finalement, ce qu'il menace est très clair, c'est notre capacité à partager, c'est la liberté d'expression, c'est la capacité voilà, à croiser des contenus, à créer du nouveau contenu, à interagir ensemble et à s'informer, à partager le savoir, enfin, tout ce qu'on défend finalement au quotidien, je pense à l'April comme chez Wikimedia en général. Alors, du coup, ça nous ramène peut-être à ce que tu évoquais, donc sur les prochaines échéances qui vont venir assez rapidement. Et peut-être, voilà, je pense qu'on peut revenir ça après une petite pause musicale qui nous permettra voilà, de revenir donc, sur la manière de se mobiliser et sur les prochaines échéances à attendre.
Effectivement, nous allons faire une petite pause musicale. Le morceau que nous allons écouter, c'est Edge of Feminine par Killy Maze. Et on se retrouve juste après.
Give a call. Mastishk me shakti hai.
Cause commune.
And all my ladies in the west. And all my ladies in the east. We about to take over this beat. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? You see this system has long been a joke. Patriarchy, they're killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yolk. Inside 360, we rep the second toke. Keeping on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust and now we must revoke. Will you blindly follow, smoothing up that coat? That's conscious on your side, do you feel her vote? And we don't want eat caged animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watchtower. Do you have the balls or are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop popping the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that internal doubter. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do?
Na koi maju na bani, kaam karvayenge. Apne kamyabi se kuch ban jayenge. Na koi maju na bani, kaam karvayenge. Apne kamyabi se kuch ban jayenge.
Choices, take over, watch the babies die. Polluted air, gun blast, see the way they cry. You been muted, lick a shot, so I can hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for pizza pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly seed, we suck it in deep. You been wasting my time, assuming that we creep. But I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small talk, he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S. Who is the real threat? I know you suspect, and while you reflect, we lethal inject with azole infects. I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes and I'll be writing checks. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do?
Love our men, but the days of the female service way back when are over, my friend. Human rights we must defend. Breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread the positive vibe. Wanna cleanse the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil he has crept inside. But when the women gather,
the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal. That you won't worry about your looks, let's be real. See the beauty inside, you've been duped, break the seal. Holy prophecy, Nostradamus wrote it, see. It's a duty to return the mother to the tree. Water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gone through? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gone through? And all my ladies in the north, and all my ladies in the east, we about to take over this beast. And all my ladies in the west, and all my ladies in the east, we about to take over this beast.
Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Bon, ben, j'espère que vous avez dansé comme nous en écoutant donc Edge of Feminine by, par Killy Maze. Donc ce morceau est disponible en licence CC by SA, c'est-à-dire attribution partage à l'identique, et les références sont sur le site de l'April, april.org. Donc avant la pause, nous étions sur le sujet du projet de directive droit d'auteur. Nous allons poursuivre donc avec mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, avec Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et au téléphone Anne-Catherine Laurin, conseillère juridique pour le groupe des Verts européens au Parlement européen. Je repasse la parole à Étienne.
C'est vrai qu'on parlait justement de cette question de la mobilisation, parce que bah, là on va revenir dans une période où la mobilisation... sera peut-être possible. Alors on va revenir peut-être sur vos pronostics. Je vais faire un point, c'est vrai qu'on vous parlait des trilogues, donc ces négociations entre les principales institutions de l'Union européenne qui discutent du texte de manière un peu technique, derrière des portes closes, on va dire. Alors nous, pendant cette période, on n'est pas resté les bras croisés, on a essayé donc d'agir, voilà, pour obtenir, comme je mentionnais rapidement, vous mentionnais plus tôt, une exception très satisfaisante pour les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Alors moi, on avait parlé, c'est GitHub qui avait fait beaucoup de bruit, parce que comme Pierre-Yves disait, il faut être en mesure de faire du bruit pour être entendu, et donc on a fait partie de ces secteurs, pour reprendre le terme, souvent employés, qui ont réussi à nous faire entendre. Alors pour ceux qui avaient suivi, on en est arrivé à quelque chose d'à peu près satisfaisant. Au départ, ça n'excluait que les plateformes de développement à but non lucratif. Dans un premier temps, ils ont fait sauter ce critère de lucrativité qui n'a aucun sens. Donc c'était toutes les plateformes de développement de logiciels libres étaient effectivement exclues sur le papier. Et nouvelle amélioration, à notre sens, l'ajout de la notion de partage, parce qu'il n'y a pas que les forges logicielles à proprement parler, comme GitHub, c'est pour développer pour faire du développement de logiciels. Il y a aussi les dépôts et aussi les archives de logiciels. Là, je pense à Software Heritage. Alors, on fera une émission, je pense, dans un futur proche, mais qui a un superbe projet d'archivage de l'ensemble des codes. Fred, tu
Software Heritage, le 12 février.
Le 12 février, voilà. Le 12 février.
Alors, le 19, excuse-moi. Voilà. Le 19.
Vous en parlant en détail, c'est un magnifique projet d'ailleurs, et qui aurait pu être impacté, alors que je crois que l'UNESCO a reconnu l'utilité pour le bienfait de l'humanité, enfin, bon, dans d'autres termes peut-être, mais dans cette idée-là. Donc, le terme de partage a été rajouté, qui permet d'avoir une définition qui nous paraît suffisamment sûre juridiquement. Et à cette fin, nous avions notamment rencontré des membres du ministère de la Culture français, donc qui ne sont pas les moins, on va dire, stricts en ce qui concerne une application rigoureuse du droit d'auteur.
Et extrémiste.
Extrémiste, oui, je pense qu'on peut utiliser ce terme, effectivement. Maximaliste, parfois, longtemps aussi. Et ils comprenaient nos arguments, ils avaient l'air d'être sur cette longueur d'onde que d'obtenir, voilà, sans le critère de créativité et de partage et de développement. Alors. Donc, nous savons, voilà, nous arrivons sur la fin de ces négociations ou pas.
Mais ce que tu veux dire par là, en fait, c'est qu'au niveau donc, des gouvernements, et notamment du gouvernement français, il y a un soutien sur cette exception pleine et entière des plateformes logicielles.
Donc, ça n'a pas l'air important de faire débat pour eux. C'est acté. C'est acté. Alors, c'est toute la difficulté de ces négociations. Tant que le texte final n'est pas connu, tout est potentiellement. Rien n'est acté encore, mais sur ce point. Je pense qu'on peut être assez confiant sur un résultat possible. Maintenant, pour nous, ça, c'est juste une exception. Et clairement, le combat reste de faire tomber cette directive, de faire tomber surtout l'article 13. Alors, donc, et c'est là un peu... cette situation est un peu était inattendue. Donc, pour reprendre, et Anne-Catherine ou Pierre-Yves, vous pourrez me corriger. Donc, finalement, les négociations devaient se terminer le 21 juin, comme on disait. Le 18 janvier... un des participants finalement, donc la Conseil de l'Union européenne, un des participants n'a pas obtenu le mandat pour pouvoir continuer ces négociations. Donc maintenant, on ne sait pas si les négociations vont continuer, si elles vont réussir à aboutir. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, de savoir qu'est-ce qui se passera ensuite. Donc sur ce point, est-ce que vous pensez, alors peut-être Anne-Catherine d'abord, ensuite peut-être Pierre-Yves, est-ce que vous pensez que les négociations vont aboutir ?
Comme je disais tout à l'heure, là, les élections européennes arrivent à grands pas au mois de mai, ce qui veut dire techniquement que aucun texte ne peut être adopté par le Parlement après début avril, vraiment au dernier moment. Mais la plupart des choses seront votées, actées par le Parlement fin mars. Qui rend les choses vraiment difficiles maintenant, puisqu'on n'aura pas eu de trilogue en janvier. Donc effectivement, une possibilité d'absence d'accord pendant cette législature du Parlement est tout à fait possible, oui.
Parce que, en plus, de mémoire, à la fin, s'ils arrivent à négocier, il faut au moins un délai d'environ 2 mois pour que, finalement, le texte puisse être voté ensuite. Donc, ça réduit d'autant plus.
Oui, donc ça veut dire qu'en fait, le mieux, ça aurait été d'avoir le dernier trilogue le 21 janvier, une autre réunion technique ou deux pour finaliser la rédaction. Et ensuite, ça passe vers les services dits des jurilinguistes qui doivent tout vérifier, les détails des textes, déjà rien qu'en anglais, puisqu'il faut que tout soit cohérent entre les articles, entre les considérants aux articles, donc quand même une vingtaine d'articles dans ces directives, c'est un dossier prioritaire, donc ça prend du temps. Et ensuite, il faut que ce soit traduit dans toutes les langues européennes, en principe, sauf si c'est un dossier vraiment hautement prioritaire et que les circonstances exceptionnelles de fin de mandat font que voilà, on peut peut-être sauter quelques traductions, mais normalement, tout doit être traduit et ensuite soumis au vote. Donc, ce serait en avril, dernière possibilité. D'accord. Après, il n'y a plus de vote pendant la session, sous ce Parlement.
Alors, on voit bien que le calendrier est serré. Si en plus, on rajoute la perspective du Brexit, qui va prendre beaucoup d'énergie. Alors, tu disais que le mieux était que les négociations aboutissent le 21 janvier. Nous, on est assez contents de dire que justement, elles soient repoussées et que tout ça commence à s'écrouler. Donc oui, on voit bien que le timing est très serré. Pierre-Yves, peut-être ton avis sur ce point ?
Je suis loin d'être un expert de Strasbourg et de Bruxelles, mais on voit ce qui compte et ce qui énerve vraiment les partisans de la directive, et notamment de l'article 13, c'est la mobilisation des citoyens, des internautes, qui continue mois après mois, et en fait depuis un an, voire les 2 années, voire plus d'élaboration du texte. On peut le percevoir avec la pétition qui a dépassé les 4,5 millions de signataires, avec sans arrêt de nouvelles plateformes. Et dernière date, c'est les youtubeurs qui ont fait de la démobilisation. Donc c'est vraiment ça qui est le point fort. Ça a étonné tout le monde, même chez nous, les Wikimédiens. C'est difficile de le maintenir sur des sujets très, très compliqués, qui changent sans arrêt. Comme il y a 3 versions du texte qui sont en cours de négociation et qui changent d'un mot, d'une virgule, qui modifie tout le texte. Donc c'est très compliqué. Il faut maintenir un peu la pression, parce qu'en fait, l'idée du filtrage, si elle ne passe pas dans cette directive, elle peut passer aussi dans d'autres textes. Je ne sais pas si vous avez évoqué la réforme en cours pour lutter contre le contenu terroriste. Il y a aussi la même idée. Et donc, tout un tas d'acteurs, en fait, et de politiciens veulent étendre cette idée de filtrage à tout un tas d'autres secteurs que le droit d'auteur.
Oui, tout à fait. Donc, avoir un rapport de force important, alors, il est essentiel sur ce texte, mais il est essentiel globalement pour lutter contre ce genre de vision très sécuritaire, on va dire, de nos échanges. Fred ?
Sur le sujet évoqué par Pierre-Yves Baudouin, on peut renvoyer sur le site de la Quadrature du Net, qui a publié, je crois, hier ou aujourd'hui, un nouvel article concernant cet autre projet au niveau européen.
Alors, tu parlais de mobilisation. Alors, c'est vrai que là, tout de suite, c'est difficile de se mobiliser parce qu'il est encore justement un peu dans cette tambouille difficilement compréhensible. Mais si ces négociations finissent par aboutir, s'ils arrivent à se mettre d'accord et que le texte finit par être envoyé au vote des parlementaires, c'est là où justement ce dont tu parlais, l'importance de ces mobilisations va se faire ressentir à nouveau. Il va falloir, et ça avait porté ses fruits hein, en juillet, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est atteignable, en juin, pardon. d'appeler les parlementaires, de leur faire comprendre que c'est une inquiétude qui ne vient pas seulement de Google ou de Facebook, qui est une vraie inquiétude populaire, que les gens se mobilisent sur ces sujets, sont sincèrement inquiets. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et effectivement, alors, il y a eu la pétition... le site Save Your Internet, hein, on va vous mettre le lien aussi également, qui était une belle plateforme et qui avait facilité ces prises de contact et qui a été d'ailleurs repris en main par EDRI, qui est une association européenne de défense digital rights, donc des droits numériques pour traduire littéralement, qui est très active aussi sur ce sujet. D'ailleurs, je mentionne qu'ils ont publié une lettre ouverte dont l'a pris les Wikimedia France, son signataire, pour à nouveau appeler au rejet de ces articles 13, rappeler l'importance des mobilisations, l'importance des critiques qui ont été formulées. Et peut-être toi, Anne-Catherine, qui travaille donc au Parlement européen, comment ils en sont où les parlementaires? Comment ils ressentent tout ce texte? Est-ce que tu as un ressenti? Quelle lecture fais-tu d'un point de vue Parlement européen de la situation?
Je peux dire que le rapporteur, M. Voss, est extrêmement nerveux et déçu qu'il n'y ait pas eu de sixième trilogue. Il espérait même que tout soit bouclé avant Noël. Il y croyait vraiment. Donc, il devient de plus en plus nerveux. Je suis incertaine, je ne sais pas s'il se présente pour les prochaines élections. Mais en tout cas, si les négociations continuent après les élections avec un nouveau Parlement, le texte restera entre les mains de ce groupe politique, PPE, plutôt de libéral, de droite.
L'équivalent des Républicains au niveau du Parlement européen, je pense qu'on peut dire.
Voilà, voilà. Donc s'il se représente, ce serait toujours lui, et si c'est pas lui, ce sera quelqu'un du même groupe. Nous, on est plutôt contents que, comme je disais tout à l'heure, on vous rejoint là-dessus, on est contents que les négociations soient ralenties, parce que ça prouve la difficulté de la chose, surtout que les négociations butent sur cet article 13, qui sont vraiment le point névralgique de toutes les difficultés engendrées par la directive, qui veut, soi-disant, tout régler et faire payer Google de tous les maux qu'il faut endurer à l'industrie de la culture, en gros. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la plupart des députés deviennent très nerveux. Oui, je parle aussi d'autres groupes politiques comme les libéraux, ADLE, c'est M. Cavada qui est leur rapporteur fictif. Oui, la plupart des gens sont inquiets.
Alors, on parlait d'extrémisme du droit d'auteur, je pense que tu viens d'en citer un en particulier. Alors, moi, j'ai vu une chose que Julia Reda disait sur Twitter, de mémoire. Alors, Julia Reda, qui est une députée du monde des groupes des Verts et qui a fait beaucoup pour aussi apporter de la transparence pendant le trilogue. Elle a participé à communiquer des textes. Et elle me semblait qu'elle disait qu'elle voyait de plus en plus de collègues regretter leur vote de septembre en faveur de l'article 13. Est-ce que tu as eu des échos similaires?
Oui. Oui, tout à fait.
Oui, donc c'est intéressant.
Parce oui, parce qu'il voit bien justement que ce qui est intéressant, c'est de voir comme un coup de théâtre, si on veut. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu le temps de vraiment finir ce qu'on avait. On avait commencé à en parler de cette lettre du secteur audiovisuel qui dénonçait maintenant l'article 13, alors qu'au début, c'était les premiers défenseurs de cet article. Ils disaient que c'était ça qui allait permettre de régler ce qu'on appelle le value gap, ce fossé de valeur entre les grandes plateformes américaines, Google, qui dégagent trop d'argent du contenu culturel, notamment européen, qui étaient les grands défenseurs de cette idée. Et là, qui se rendent compte qu'à force de discussions, de tractations sur toutes les conditions de mise en œuvre de cet article, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si terrible que ça, c'est trop compliqué, c'est une usine à gaz. Il y a déjà des systèmes mis en place par le secteur audiovisuel pour reconnaître automatiquement les contenus en ligne, donc ils sont assez contents de ce qui est déjà en place, ils voudraient pas que tout soit chamboulé. Et ils se rendent compte, très justement, ça on l'a toujours dit, que seules les grosses plateformes comme Google, qui ont déjà des systèmes ID content de reconnaissance automatique de contenu, peuvent se permettre d'appliquer cet article 13 qui oblige à mettre en œuvre des conditions drastiques que seul Google peut mettre en œuvre. Donc là, les acteurs du secteur audiovisuel avaient envoyé cette lettre en décembre, dont la Motion Pictures of America, qui par ailleurs ne représente pas des intérêts vraiment européens, c'est intéressant de le voir, que finalement, ils préféraient ne pas avoir d'article 13. Donc les députés qui ont finalement voté pour cet article en septembre, malgré toute la discussion qu'il y a eu, les campagnes médiatiques, les appels téléphoniques de citoyens qu'ils ont reçus, ils regrettent finalement d'avoir voté pour cet article 13, effectivement. Beaucoup d'entre eux.
Alors, c'est dommage que quand les citoyens appellent, on part de lobby de Google, mais je t'explique bien, pas l'ensemble des parlementaires.
C'est très énervant d'entendre ça. Oui, c'est raccourci de dire que tous ceux qui sont contre la création sont pro Google. Ouais.
Ça finit par rattraper. Mais ce que je trouve qu'un terme qui résume bien ce que tu dis, c'est une situation un peu d'usine à gaz. Et c'est vrai que du coup, quand on essaye de revenir un peu dans le fond et d'expliquer tout ça, ça peut être un peu confus, mais le texte l'est par ailleurs. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a eu un sacré coup de pouce là en notre faveur, que bien sûr le combat n'est pas fini, mais que si jamais un vote doit avoir lieu, on est vraiment dans des très bonnes dispositions pour se mobiliser. Et si on se mobilise, on a vraiment toutes les chances d'être entendu. On a déjà été entendu une fois et ça converge. Là, les situations convergent pour qu'on... Il semble bien que nos interlocuteurs, que les parlementaires, quand il faudra les appeler, entendent bien que l'inquiétude est réelle et qu'elle vient de nombreuses voix. Et voilà, je pense qu'on a toutes les chances de faire renverser cette directive. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je pense qu'on va arriver
L'alignement d'étoiles peut vraiment être parfait si aussi on prend en compte les élections européennes qui arrivent.
Bien sûr.
Il y a quand même un enjeu d'élection qui fait que l'intervention et la mobilisation citoyenne est regardée d'un œil plus attentif.
Le temps presse pour eux, nous on a tout notre temps. Donc voilà, le temps presse pour eux, et le plus temps presse pour eux, plus c'est difficile, je pense, pour eux d'aboutir. Je pense qu'on arrive au bout du sujet, mais si vous avez peut-être un mot de fin, une dernière réflexion, Pierre-Yves.
Il ne faut pas perdre espoir, c'est un marathon qui a débuté il y a 2 ans et demi, et là il ne reste plus que quelques semaines. Continuez à s'informer, continuez à présenter tous ceux qui sont opposés, ils sont de plus en plus nombreux, et on voit qu'il y a de nouveaux secteurs comme l'audiovisuel américain, le sport, il y a aussi le syndicat du foot anglais, hein, qui n'est pas un petit acteur du numérique, il y a un petit lobby. Donc il faut mettre en avant ça, tout ça. Il y a 2 ans, il y avait déjà les chercheurs, les pionniers du web, tout ça. Il y a vraiment tout un tas de secteurs différents, les associations de consommateurs qui sont opposés à cet article. Donc continuer à diffuser leur message et on devrait gagner.
Anne-Catherine ?
Oui, on a l'habitude de critiquer le Conseil puisque ils sont très très protecteur des intérêts nationaux, ce qui ne fait pas forcément avancer les choses du bon côté. Mais là, au moment présent, on voit le Conseil qui nous offre une fenêtre d'opportunité pour réveiller un petit peu cette mobilisation autour de l'article 13.
C'est vrai qu'on ne pensait pas que ça viendrait d'eux, mais voilà, comme quoi.
Donc, voilà.
Merci beaucoup à Pierre-Yves Baudouin pour Wikimedia France et Anne-Catherine, conseillère politique pour le groupe des Verts, la commission juridique du Parlement européen. Je pense qu'on sera sûrement amené à reparler de ce sujet passionnant.
Oui, merci.
Merci.
Alors, merci Anne-Catherine Laurin, donc conseillère au Parlement européen et qui se souvient, comme bien d'autres, de la victoire contre ACTA il y a quelques années, donc le traité anti-contrefaçon, et plus loin encore la directive brevet logiciel qui avait été rejetée. Donc, quand on se mobilise, quand les citoyens et citoyennes se mobilisent, on peut agir et renverser des textes si on n'arrive pas à les corriger, comme c'est le cas actuellement. Donc, on espère que ce projet de directive subira le même sort. Donc, je remercie aussi Pierre-Yves Baudouin, donc président de Wikimedia France. Nous allons passer une petite pause musicale avant d'aborder notre dernier sujet. Nous allons écouter Les files d'attente par Love ou Lo, je ne sais pas comment ça se prononce, et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Je me faufile en filature le long de longues files en attente. Non, je n'aime pas trop quand ça dure. Alors je passe, je fraude, je tente. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi, j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, les dents.
chassent tous en silence, comme des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science, ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent, ils écoutent bien trop la politique. Offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Croyez-moi, vive la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps.
Sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter Les Files d'attente par Low ou Love, qui diffusait sous une licence libre Creative Commons partage à l'identique. Vous retrouvez évidemment la référence sur le site de l'April, april.org. Nous allons désormais de passer à un nouveau sujet avec Patrick Creusot, qui est donc bénévole à l'April et qui fait partie d'un de nos groupes de travail qui s'appelle, alors le nom de code c'est Trad GNU, mais le but de ce groupe de travail c'est de présenter l'informatique libre et la philosophie de GNU en français. Alors bonjour Patrick.
Bonjour Frédéric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Alors déjà première question, c'est quoi GNU? GNU, je précise.
Oui, GNU, donc GNU. C'est un système d'exploitation qui a une particularité, c'est un système d'exploitation libre qui a été créé par Richard Stallman en 1983, si je ne me trompe pas, et qui est maintenu par une association qu'on appelle le projet GNU et qui est soutenu par la Fondation du logiciel libre.
La Fondation pour le logiciel libre.
Pour le logiciel libre, la Free Software Foundation.
Qui existe. Alors, le projet GNU a été développé à partir de 83-84, en fait, et la Fondation pour le logiciel libre a été créée en 1985, et c'est un projet qui est en cours de développement, et donc qui vise à créer un système d'exploitation entièrement libre. Alors, je renvoie les personnes qui nous écoutent à l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous avons notamment discuté des distributions GNU Linux, qui de nos jours permettent d'avoir un système d'exploitation entièrement libre.
Tout à fait. Donc, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est la signification de GNU.
Oui.
Hein, parce que GNU's not Unix. Alors, c'est un acronyme, hein, GNU, évidemment. C'est un acronyme qui est un petit peu particulier, puisqu'il a il a ce qu'on appelle. je cherche mes mots.
C'est un acronyme récursif.
Voilà. Effectivement, puisque dans la définition, on a le terme GNU, GNU's not Unix. Donc, ça permet aussi de comprendre.
GNU n'est pas Unix.
N'est pas Unix, mais ça permet aussi de comprendre que c'est un système d'exploitation qui est inspiré d'Unix, mais avec cette différence fondamentale que c'est un système d'exploitation libre.
Voilà, Unix qui est un ancien système d'exploitation multitâche, utilisateur, propriétaire. Et le but du projet GNU était d'en écrire une version avec les mêmes concepts, mais en logiciel libre, au niveau technique.
Tout à fait. Alors, en dehors de ce côté purement technique, donc d'un logiciel libre, on a beaucoup insisté aussi sur... Il y a toute une philosophie qui est autour de GNU. C'est-à-dire que GNU, c'est libre... Pas seulement pour des questions techniques, hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de développeurs qui estiment que rendre un code logiciel libre, ça n'intéresse surtout sur le plan technique, parce que du coup, ça permet de le faire connaître par une multitude de codeurs et donc possibilité d'amélioration. Or, l'idée autour de GNU, c'était pas même ça l'essentiel. Effectivement, il y a un côté technique, un côté efficacité technique qui est très important, mais l'essentiel, c'était pas ça. C'est qu'à un moment où l'informatique, que ce soit le logiciel, le software ou le matériel, le hardware est partout dans la vie des citoyens, il était important que ça soit, il y a un symbole de liberté, que la liberté était plus importante que l'efficacité, vu l'importance que prenait l'informatique dans la vie sociale.
Oui, ce que tu précises, c'est que le projet de Richard Stallman, à travers le projet GNU et la Fondation pour le logiciel libre, c'est pour lui avant tout un objectif éthique, social, de partage de la connaissance. Et là où tu fais référence aux aspects techniques, c'est plus le mouvement qu'on va appeler open source. On en a également parlé, je crois, lors de la précédente émission. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, voilà. Donc le projet GNU, un projet fondateur dans le mouvement du logiciel libre. L'April a un groupe de travail dont l'objectif est de présenter cette philosophie du projet GNU en français. Alors, ce groupe existe depuis quand ?
Alors, là, tu seras...
Alors, je souris parce que...
Moi. Oui, voilà. Tu es mieux placé que moi pour répondre, mais je crois que c'est le premier groupe de travail de l'April, en fin de compte.
Alors, je souris parce que j'étais évidemment à l'origine, étant l'origine de l'April, avec quatre camarades, j'ai les informations très précises. Donc, ça, c'est le premier groupe de travail que nous avons créé au sein de l'April en 1996. Pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque, donc, on crée l'April en 1996 avec pour l'objectif de faire connaître le logiciel libre. Et on s'est dit, on va écrire des textes pour faire connaître, mais on s'est dit aussi, il existe un site de référence, qui est le site, on va le citer, donc gnu.org, gnu.org, dont la quasi-totalité des textes était disponible exclusivement en anglais. Et donc, on s'est dit à l'époque qu'une première action à mener, c'est de traduire des textes donc de l'anglais vers le français et de les proposer au site de gnu.org pour qu'ils mettent en ligne la version française de ce texte. Voilà. Et c'était le premier contact que nous avons eu avec le projet GNU et avec Richard Stallman, car pour la petite anecdote, à l'époque, nous avons envoyé un courriel au webmasters de GNU, donc webmasters@gnu.org, et nous avons eu l'incroyable plaisir de recevoir une réponse de Richard Stallman lui-même, qui nous expliquait comment on allait pouvoir faire et qui était évidemment ravi. Donc c'est un groupe qui existe depuis 1996, donc, et qui est toujours actif, et qui permet donc à un public francophone qui visite le site de GNU.org d'avoir accès quasiment à toutes les pages en français.
Oui, pratiquement. Hein, pratiquement l'essentiel de vraiment du contenu écrit dans GNU.org est maintenant disponible en français. Ça s'est fait au cours des années. Alors, à l'heure actuelle, il y a des remises à jour, il y a des mises à jour, il y a des ajouts selon les événements, selon l'actualité. Et il y a peut-être un point qui constitue l'essentiel de l'activité de notre fameux groupe TradGNU, qui est en fin de compte la traduction en français d'une lettre électronique, en fait, de la FSF, qu'on appelle le supporter, qui est un mensuel.
C'est le Free Software Supporter, c'est la lettre d'information de la Fondation pour
Qui sort
libre.
Tous les mois, en général en début de mois. Donc évidemment, il sort à l'origine en langue anglaise. On reçoit ce supporter, donc ce texte anglais, et le groupe TradGNU s'efforce donc de le traduire dans les meilleures conditions possibles et de le rendre disponible rapidement donc à des gens qui ne comprennent pas la langue anglaise.
Alors, de mémoire, il doit y avoir 120 000 ou 130 000 inscrits à cette lettre d'information. Je ne connais pas la répartition sur la langue le lectorat francophone. Et de mémoire aussi, la seule autre langue qui est disponible, c'est l'espagnol.
L'espagnol,
voilà,
oui, tout à fait.
Encore aujourd'hui, le site de GNU, même si c'est de la FSF, donc fsf.org pour Free Software Foundation, visiblement, a quand même du mal à recruter des gens pour traduire dans d'autres langues. Donc, on peut saluer le remarquable travail qui est fait par TradGNU. Alors, TradGNU, tout simplement, parce que c'est traduction GNU. Voilà, c'est trad-GNU, on appelle ça. Donc, c'est un nom de code. Alors, comment le groupe fonctionne à la fois pour les traductions, pour les relectures, pour la mise en ligne sur le site de GNU.org ? Et seconde question, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques ?
Oui, alors le mode de fonction, je t'ai dit, l'essentiel de notre activité à l'heure actuelle, c'est, disons, divisé en deux grandes parties. Une activité qui est très régulière, qui est chaque fois en début de mois, donc c'est la traduction du free software, du supporter.
Free software supporter.
Free software supporter, tout à fait. Ça arrive systématiquement en début de mois, dans les premiers jours du mois. Et puis, alors, de façon très, très irrégulière, dans le courant du mois, il peut y avoir soit des mises à jour d'anciens textes qui avaient déjà été traduits par TradGNU, mais qu'il faut légèrement modifier, ou parfois des textes tout à fait nouveaux qui arrivent suite à une conférence, une activité de popularisation de quelque nature que ce soit de Richard Stallman ou bien liés à l'actualité.
Donc c'est souvent des textes des textes écrits par Richard Stallman, très souvent.
Très souvent, oui. Très souvent.
Et est-ce que tu sais s'il y en a, combien il y en a par mois
C'est très, très irrégulier. Très irrégulier. Il peut y en avoir 3 ou 4 par mois, et puis pendant plusieurs mois, ne pas en avoir. De même qu'on peut avoir parfois, je te dis, des textes complètement nouveaux, et parfois de simples mises à jour. Parmi les textes nouveaux, je sais qu'il y a eu relativement... Oui, c'est un texte nouveau, c'est parce que c'était pas une mise à jour. On a eu, il n'y a pas très longtemps, des règles un petit peu... C'est des textes très, très divers. Hein. Donc, il y en avait un, c'était des règles de conduite de débat au sein du projet GNU, un petit peu sur des idées un peu basiques, mais qui est toujours bien d'en rappeler, à savoir que quand on discute d'idées, pas de personnes, donc on peut critiquer des idées, mais on ne critique pas les personnes. Enfin, voilà, une espèce de protocole de comportement correct au sein des discussions. Il y a eu un texte sur les problèmes de vie privée posés par les smartphones. Oui. Alors les smartphones, disons, non libres, puisqu'on se dirige quand même vers des smartphones libres, même s'ils sont assez peu répandus. Donc c'est des textes très très variés.
D'accord. Je renvoie les personnes qui nous écoutent à une émission passée de Libre à vous, qui a eu beaucoup de succès, qui était consacrée justement à la téléphonie mobile et aux libertés. Donc vous retrouvez ça sur le site de l'April. Je ne me souviens plus quelle date c'était, quel mois c'était, mais en tout cas.
Et qui est disponible en podcast.
Quoi. Et qui est disponible évidemment en podcast.
J'ai 6 novembre de mémoire.
Alors 6 novembre de mémoire. Donc on verra si Étienne avait une bonne mémoire.
Et alors donc tous les mois, on a ce fameux supporter. Donc on a une responsable de Tratnou. Qui reçoit.
Alors, c'est Thérèse Godefroy.
Thérèse Godefroy, alors, tout à fait, qu'on salue. Je ne sais pas si elle nous écoute.
Mais voilà, mais elle ne souhaitait pas intervenir à la radio. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est toi qui interviens.
Donc, voilà. Donc, elle est en liaison avec une responsable à la FSF, hein, donc la Free Software Foundation, qui lui donne le sommaire. En fait, c'est un sommaire détaillé. Hein, c'est le sommaire détaillé du supporter. Alors, tu me demandais des outils qu'on utilise.
Oui, est-ce que vous utilisez un outil particulier ?
Voilà, ce qui se passe, c'est qu'elle le reçoit sous forme de fichier, je crois, un peu genre HTML, et elle le met sur un pad. En fait, l'outil de travail vraiment qui va être essentiel pour le groupe, ça va être un pad.
Alors, c'est quoi un pad ?
Alors, un pad, comment est-ce qu'on peut définir ça ? C'est une sorte d'éditeur, mais qui... collaboratif, disons.
Alors, c'est une page, en fait, sur un site web, sur laquelle n'importe qui peut contribuer en écrivant du texte, en corrigeant, en mettant un petit peu en forme, sans avoir besoin de se créer un compte. Donc, c'est d'une simplicité redoutable.
C'est très, très simple, oui. Et donc, ça permet surtout le travail collaboratif. On va être plusieurs à intervenir là-dessus. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps peut traduire, je ne sais pas quoi, un dixième, peut-être, du texte, une plus grande partie, s'il le peut. Donc, c'est très, très souple. Si jamais on se retrouve à plusieurs à travailler en même temps, il y a en plus un petit module chat.
Voilà, pour discuter.
Et voir si éventuellement on a des avis différents, si on a une tradition, si il y a un problème. Ça permet de discuter en direct.
D'accord. Alors, ce point, avant de brancher les questions, est important parce que ça permet de préciser qu'une personne qui souhaiterait contribuer au groupe de travail, en termes techniques, n'a pas besoin de compétences poussées, juste simplement de pouvoir se connecter sur ce pad et contribuer. Et que derrière, le travail de mise en ligne sur le site de GNU.org est effectué par la responsable du groupe de travail, donc Thérèse Godefroy. Ouais. Et pour le Free Software Supporter, donc la lettre d'information de la Fondation pour le logiciel libre, c'est une personne de la Fondation qui met en ligne sur le site de la Fondation. Alors, quelles compétences et quel temps faut-il pour participer à ce groupe ?
Alors, bon, les compétences, il s'agit de traduire quelque chose d'anglais en français, donc il faut quand même un petit peu connaître l'anglais. Ceci dit, c'est quand même c'est pas de l'anglais littéraire, quoi. Il ne s'agit pas de traduire Shakespeare. Hein. C'est plutôt des petits articles, soit d'actualité, soit éventuellement techniques. Donc, ça ne demande pas une licence ou une agrégation en anglais. Hein. Il faut un petit peu de connaissance d'anglais. Si possible, il faut avoir une connaissance du logiciel. D'abord parce que je pense que si on ne s'intéresse pas du tout au logiciel et pas au logiciel libre en particulier, je ne vois pas très bien ce qu'on vient faire dans ce groupe. Et puis qu'en plus, parfois, il y a effectivement certains articles qui sont un peu techniques. Ça ne demande pas des connaissances très très poussées parce que tout simplement, on peut faire appel à d'autres personnes. Hein. Ça m'est arrivé parfois à certains paragraphes particulièrement compliqués. Ben, on demande à quelqu'un de nous expliquer. On dit « Attendez, non, on parle de telle chose. Je ne vois pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut nous expliquer de façon à le rendre correctement en français.
Et une compétence possible, c'est simplement la relecture en français, une fois que c'est traduit
voilà.
en anglais.
Et donc, il y a deux phases. Il y a une phase de traduction proprement dite et une phase de relecture. Donc, phase de traduction qui peut être faite par plusieurs personnes, on l'a dit, grâce à l'utilisation du pad. Quand tout est terminé, celui qui termine, en général, envoie un petit message sur la liste en disant, ça y est, la traduction est terminée. S'il y a des gens qui sont disponibles pour faire de la relecture, allez-y, c'est le moment. Donc, il y avait une question sur le temps, sur l'investissement en termes de temps, c'est du coup extrêmement variable.
la contribution peut nécessiter relativement peu de temps.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Et pour finir sur cette partie-là, sur les termes qui pourraient poser question ou autre, il faut rappeler aussi l'avantage que Richard Stallman parle très bien français, et donc il peut être éventuellement sollicité pour préciser sa pensée.
Absolument.
Alors, dernière question, que t'apporte personnellement le fait de contribuer à ce groupe ?
Bah moi, c'est ce qui me plaisait, c'est d'abord, je suis arrivé en 2015, je crois, à l'April. J'avais expliqué un petit peu ce que je venais, mon parcours professionnel. Les 15 dernières années, j'avais été prof d'anglais en lycée professionnel. Et donc, comme je voulais contribuer et apporter quelque chose à l'April, je me demandais dans quel secteur vous auriez une demande qui correspondrait à ce que je peux faire. C'est là qu'on m'a parlé du groupe. Et donc, c'était un grand plaisir parce que moi, ça me permet d'avoir un certain apport, même s'il est très, très limité, à la promotion du logiciel libre. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, un des gros intérêts, c'est le travail collaboratif. Ça, c'est quand même très, très sympa.
Alors, c'est pas limité comme contribution, c'est une contribution très importante car tout le monde ne lit pas l'anglais courant. Donc c'est important, et en plus ça permet pour les personnes qui contribuent de finalement d'enrichir leurs connaissances sur cette philosophie du projet GNU, parce que quand on traduit, on doit effectivement comprendre ce que l'on traduit.
Tout à fait, ça permet de pousser certaines choses dont j'ai connaissance très limitée au départ, et puis ça me permet de travailler mon anglais en plus.
Ouais, c'est excellent. Alors je précise que ce groupe de travail est ouvert à toute personne, qu'elle soit membre ou pas de l'April. Donc sur le site de l'April, april.org, dans la page consacrée à cette émission, vous retrouvez les références vers le site de travail de ce groupe de travail, et surtout le lien le plus important, le lien pour s'inscrire à la liste de discussion. C'est la façon la plus simple de commencer. Vous pouvez vous inscrire et envoyer un petit courriel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Patrick ?
Non, je crois que
non. Bah, en tout cas, je te remercie. Donc, c'était Patrick Creusot, bénévole à l'April et notamment aux membres du groupe de travail de la traduction de la philosophie GNU. Alors, comme vous entendez la musique qui a commencé en mode tapis, il nous reste très peu de temps. Je vais juste parler d'un dernier sujet parce qu'on parlait tout à l'heure de la mobilisation des personnes sur la directive droit d'auteur. Il y a aussi en France des projets qui arrivent. C'est le projet de loi pour une école de la confiance, dont l'examen va commencer dès ce soir à 21h à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été déposés, notamment par le groupe parlementaire La France Insoumise, avec notamment l'un qui propose un nouvel article que je vous lis. Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont des logiciels libres. Bon, nul besoin de vous expliquer qu'on est plutôt en faveur de cette chose-là qui se rapproche très fort de notre notion de priorité au logiciel libre. Donc dans l'après-midi ou assez rapidement, nous allons mettre sur le site de l'April des éléments d'information concernant ce projet de loi que vous pouvez suivre. Vous pouvez contacter des parlementaires pour les encourager à soutenir cet amendement. Il y a d'autres amendements sur la neutralité commerciale pour renforcer la neutralité commerciale et mettre un terme aux accords de partenariat entre guillemets avec des sociétés comme Microsoft, Google et autres qui sont des portes d'entrée de ces mastodontes auprès de nos élèves et écoliers. Donc l'émission se termine. Je remercie l'ensemble des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc Anne-Catherine Laurin, Étienne Gonu, Vincent Calam, Patrick Creusot, Pierre-Yves Baudouin, à la régie Olivier Grieco. Le podcast sera disponible assez rapidement. Sur le site de l'April, donc vous avez la page avec les références citées qui va être mise à jour juste après. On se retrouve le 5 février 2019, donc à 15h30. Nous nous quittons donc en musique avec Weston de Realaz. Bonne journée.
Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fm.